Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur le pouvoir des lobbyistes. Qui sont-ils vraiment? Comment travaillent-ils? Jusqu'où peuvent-ils aller pour influencer les responsables politiques? On va voir ça avec vous, Isabelle Souquet, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Jean-Christophe Collin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez une enquête très détaillée sur la face cachée du sport en Russie, entre dopage, services secrets et raison d'État.
France Inter. Secret d'info, Benoît Colomba.
Il y a un moment, il faut qu'on arrête d'être naïf. Derrière ces firmes, et je vais parler avec prudence parce que, croyez-moi, on se sent tous menacés par ces firmes-là. Mmh. Ils ont des moyens de pression que l'on subit les uns et les autres. Il faut quand même le savoir. Et donc, il faut à un moment ou à un autre redonner de la dignité au monde paysan, redonner de la sécurité alimentaire et faire en sorte que le lobbying de ces entreprises, quelque part, ne court-circuite pas la démocratie. Ces firmes-là ne sont puissantes que parce qu'on est faibles.
Voilà, c'était le 23 octobre dernier dans l'émission C'est à vous sur France 5, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot qui lâche cette petite phrase, le lobbying qui serait menaçant des grandes firmes de produits chimiques pour l'agriculture. Un lobbying dont il a été beaucoup question ces derniers jours lors de l'examen du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation, on va y revenir. Alors à Secret d'Info, nous avons voulu en savoir plus. Quelle est l'influence réelle des lobbyistes? Est-ce qu'ils franchissent parfois la ligne jaune? Avec Marjolaine Corr, vous avez donc enquêté, Isabelle Souquet. Et je le disais à l'instant, le soupçon autour de ces lobbies, il a ressurgi récemment en plein hémicycle.
Oui, ça s'est passé le 22 mai dernier à la tribune de l'Assemblée nationale. La députée des Deux-Sèvres, Delphine Batteau, s'insurge. Son amendement interdisant le glyphosate, un herbicide considéré comme toxique par de nombreuses études scientifiques, cet amendement aurait été intercepté par le lobby de la chimie.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Je n'imaginais pas que dans une nouvelle étape ultime de leur influence sur la décision publique, ils auraient désormais accès aux informations de la base de données des amendements déposés par les députés. L'Assemblée nationale va-t-elle s'élever contre le fait que cet amendement interdisant le glyphosate se retrouve dans les mains de Bayer Monsanto avant même que son existence soit portée à la connaissance des parlementaires?
Oui, donc l'amendement anti-glyphosate de Delphine Batteau se serait retrouvé entre les mains des lobbies avant même les députés. Mais sur quoi elle se base, l'ancienne ministre de l'écologie, pour dire ça?
Eh bien, Delphine Batteau explique qu'elle a déposé son amendement sur la base de données de l'Assemblée. Et puis cet amendement, elle l'a ensuite modifié. Et quelques jours plus tard, un lanceur d'alerte l'informe que la première version de cet amendement, non corrigée, figure déjà dans un document interne du lobby de la chimie. C'est bien la preuve, estime la députée, que les lobbyistes court-circuitent le processus législatif.
C'est comme si, en fait, ils avaient pu accéder à mon projet d'amendement avant même qu'il soit enregistré par les procédures habituelles de l'Assemblée nationale. Comme s'il y avait une sorte de système d'alerte interne à ce qui se passe dans les institutions, où comme ça vous avez un certain nombre de mots-clés, ouais. Où là, tout d'un coup, l'information circule très vite et fuite très vite.
Comme si les lobbyistes avaient un système d'alerte interne au sein de l'Assemblée, dit Delphine Batteau. Mais pour qu'on comprenne bien, qui peut avoir accès à ces projets d'amendement?
Nous avons posé la question au président de l'Assemblée nationale, François Drugy, et voilà ce qu'il nous a répondu.
Très peu de personnes ont accès à ces amendements. Bien sûr, les députés n'ont pas accès aux amendements des autres députés. Seuls les fonctionnaires de l'Assemblée peuvent y avoir accès. Et à partir du moment où ils sont définitivement déposés, mais qu'ils ne sont pas encore publics, le rapporteur y a également accès, et les services de l'Assemblée, pour commencer à faire le traitement des amendements. Tout cela se fait dans un délai très court.
Seuls les fonctionnaires de l'Assemblée accèdent à cette base de données. Finalement, peu de personnes, dit le président de l'Assemblée nationale. Vous avez vérifié, Isabelle, il n'a oublié personne là?
Si, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de monde qui peut consulter ce type d'amendement. Selon nos informations, 11 ministères sont dans la boucle à cette étape du processus, et pas des moindres. L'agriculture, la santé, l'écologie, et ça, François Drugy a visiblement oublié de nous le dire.
Bon, et finalement alors, est-ce qu'on sait qui a intercepté ce fameux amendement de Delphine Batteau dans le serveur informatique de l'Assemblée?
Eh bien non, une enquête interne a été lancée par le secrétaire général de l'Assemblée, mais elle n'a rien donné.
Et les lobbies soupçonnés d'avoir récupéré cet amendement avant tout le monde, qu'est-ce qu'ils répondent à tout ça?
Eh bien ils expliquent que oui, ils récupèrent bien des amendements, mais seulement quand ils sont rendus publics sur le site de l'Assemblée. C'est ce que nous dit Delphine Gay, la responsable de la communication de l'Union des industries de la protection des plantes, l'UIPP, qui regroupe des poids lourds de la chimie comme Bayer, Monsanto ou BASF.
Comme toutes les parties prenantes, bien souvent on s'appuie sur des cabinets extérieurs dont le métier est justement de faire de la veille réglementaire. Cette veille est assurée par un cabinet qui nous a informé de la mise en ligne des amendements et à partir de là, nous avons fait notre travail d'analyse comme toutes les parties prenantes et nous n'avons jamais, à aucune occasion, pu avoir accès aux fameux amendements que Delphine Bateau met en avant.
Nous ne pratiquons pas le vol d'amendements, dit la porte-parole des produits phytosanitaires. Bon, en tout cas, ce qu'on comprend au-delà de cette histoire, Isabelle, c'est que pour tous les groupes de pression, l'information, c'est une donnée stratégique.
Oui, et pour ça, il est crucial d'avoir des relais bien placés au cœur du pouvoir, comme par exemple les assistants parlementaires, discrets, mais au plus près de la fabrication de la loi. Écoutez ce que nous a confié un lobbyiste qui tient à rester dans l'ombre. Nous avons fait lire son témoignage par un journaliste.
Il y a quelques années, l'un de mes clients était un important fabricant de cigarettes. Son PDG m'a demandé de lui trouver un assistant parlementaire qu'il pourrait employer à mi-temps. Sa mission aurait été de transmettre à l'entreprise les comptes rendus des commissions parlementaires. J'ai refusé, j'ai perdu le client.
Des assistants parlementaires visiblement très recherchés par les grands groupes, on l'a bien compris, et encore aujourd'hui ?
Oh oui, et même si depuis l'été dernier, la loi interdit désormais d'embaucher à temps partiel des collaborateurs, dès qu'ils ont quitté leur poste, ils sont des cibles de choix pour les lobbyistes, comme l'explique l'ex-députée écologiste du Calvados, Isabelle Attard.
J'avais une collaboratrice qui a quitté mon équipe en juillet 2016 et qui a de suite été contactée par ces cabinets de conseil qui étaient très friands de pouvoir bénéficier de ces connaissances. Ce qui est assez surprenant parce qu'elle n'était pas ma collaboratrice sur Paris, elle était en circonscription et donc on pourrait penser que ça intéresse moins les cabinets de conseil et malgré tout elle a été sollicitée. C'est dire à quel point les lobbyistes ou ces cabinets de conseil recherchent à tout prix d'avoir un contact le plus près possible des élus.
La recherche du contact à tout prix, au plus près du terrain donc, et parfois aussi au plus près des ministères.
Oui, parce que c'est là que circulent des documents précieux, avec la tentation d'utiliser des petites mains pour se les procurer discrètement. Écoutez le témoignage de Marisol Touraine, elle se souvient d'un étrange épisode lorsqu'elle était ministre de la Santé et qu'elle tentait de faire passer le paquet neutre face au lobby du tabac.
Une assistante avait été retrouvée dans une situation qui, en tout cas, amenait à se poser des questions, puisqu'elle cherchait à consulter des documents qu'elle n'avait pas à consulter naturellement. Donc, dans le doute, nous l'avons écartée des endroits où elle pouvait accéder à ces documents.
Une assistante qui fouille dans les papiers de la ministre et qu'on écarte par prudence. Bon, là on parle de pratiques assez difficiles à prouver et qui sont clairement illégales. Sans aller jusque-là, il peut y avoir aussi des pratiques un peu limites.
Oui, et certains lobbyistes revendiquent d'ailleurs d'utiliser ces méthodes. Comme Thierry Coste, c'est un lobbyiste un peu atypique qui a aujourd'hui l'oreille du président de la République sur tout ce qui concerne la chasse et la ruralité. Il ne cache pas non plus qu'il travaille pour le lobby des armes ou pour certains pays pas vraiment démocratiques. Et pour obtenir de l'information, il est prêt à aller très loin.
Mon métier, c'est d'abord de faire beaucoup d'investigations, de renseignements. Je suis un spécialiste du renseignement. Je cherche aussi du renseignement dans les groupes de pression opposés. Donc j'infiltre les groupes de pression, c'est une de mes spécialités, notamment dans les associations de consommateurs, les ONG environnementales, dans les syndicats, dans tous ceux qui peuvent nuire aux intérêts de mes clients. Et ensuite, c'est de bien connaître ceux qui vont prendre les décisions pour essayer de les convaincre. Il faut savoir utiliser les bons arguments au bon moment. Donc les arguments, ça peut être une bonne discussion, mais ça peut être aussi une bonne polémique, un bon rapport de force. Donc le lobbying, c'est tout ça.
Un lobbyiste spécialiste du renseignement et de l'infiltration, on se croirait presque dans les services secrets. Et quelles sont ses limites à ce lobbyiste ?
Eh bien tout simplement les limites fixées par la loi. Légales, oui, mais pas toujours morales.
J'ai un code d'honneur que peut-être peu de lobbyistes ont, mais à part ce code d'honneur qui est de respecter les lois, les règlements, de ne jamais pratiquer la corruption et de ne jamais pratiquer les polémiques sur les affaires de sexe ou d'argent, pour tout le reste, je suis sans foi ni loi. Mon métier, effectivement, il n'est pas très déontologique. Je respecte la loi, point. Pour le reste, je n'ai aucun état d'âme.
France Inter, secret d'info.
Alors on a vu comment les cabinets de lobbying jouent parfois avec le feu pour obtenir de l'information au plus près du pouvoir. Voyons maintenant, Isabelle Souquet, les techniques utilisées par ces lobbies pour tenter de faire passer leur message.
Oui, et en voici un exemple. Nous avons pu nous procurer un mail de Dow Chemical, la grande firme américaine de chimie, qui s'adresse à ses lobbyistes. Ce message concerne un insecticide tueur d'abeilles. Son interdiction est examinée à ce moment-là au Parlement. Et dans ce message, un argumentaire clé en main, fourni par les industriels de la chimie, en l'occurrence, à nouveau, l'Union des industries de la protection des plantes, l'UIPP. Nous avons fait lire ce mail par une journaliste.
La définition proposée par les amendements ne correspond aucunement au consensus scientifique actuel. Les amendements proviennent de différents groupes politiques et le risque qu'ils soient adoptés est donc très important. C'est pourquoi je vous serais très reconnaissante de mobiliser vos contacts et de sensibiliser vos députés pour faire en sorte que ces amendements ne soient pas adoptés. À toute fin utile, vous trouverez en pièce jointe l'argumentaire détaillé concernant ces amendements préparé par l'UIPP.
Prière de sensibiliser vos députés, conseille donc le lobby de l'industrie chimique à ses contacts. Et comment il justifie ça alors, ce lobby ?
L'Union des industries de la protection des plantes explique que son rôle, c'est de surveiller les projets de loi, d'analyser des documents et éventuellement de proposer des argumentaires. Mais ça n'a rien à voir avec des amendements clés en main, assure la chargée de communication de l'UIPP, Delphine Gay.
Nous, notre travail consiste à voir dans les projets de loi ou dans les propositions de loi qui peuvent être déposées par des parlementaires, quels seraient les impacts de telle ou telle rédaction. De là à rédiger des amendements, ça peut arriver, c'est-à-dire que certaines fois, on nous demande des propositions quand on est auditionné, par exemple, par le ministère de l'Agriculture, mais on rédige pas en tant que tel l'amendement, non.
Pas d'amendement clé en main, dit donc le lobby des produits phytosanitaires. C'est pourtant une pratique assez fréquente lorsqu'il s'agit de défendre certains intérêts.
Oui, et on l'a notamment vu dans le projet de loi sur l'alimentation. Une soixantaine de députés, La République En Marche, UDI, LR et Modem, ont déposé exactement le même amendement en faveur de l'épandage de pesticides sur les vignobles avec des drones. Le même amendement à la virgule près, ce qui montre clairement l'influence en coulisses des lobbyistes.
Ça, c'est donc pour l'épandage de pesticides avec des drones. Et parfois, la majorité d'un amendement, elle peut basculer à une ou deux voix près.
Oui, vous vous souvenez de Thierry Coste, le lobbyiste des chasseurs ?
Oui, le spécialiste des infiltrations, sans foi ni loi.
Eh bien, il a joué un rôle clé pour faire passer un amendement interdisant l'insecticide tueur d'abeilles. Il a réussi à retourner deux élus, un PS et un LR, parce qu'ils appartenaient au groupe d'élus proches des chasseurs.
On s'est positionné pour l'arrêt rapide des néonicotinoïdes. On a rencontré le groupe Bayer, on a rencontré les syndicats agricoles. Ils sont fous furieux de nos positions, mais on a gagné la bataille. Ce sont deux parlementaires du groupe chasse qui ont fait pencher la balance au moment du vote de la loi sur la biodiversité. Les ONG avaient fait signer une pétition à 700 000 personnes, etc. Mais la réalité, c'est que c'est dans le vote. Et à deux voix près, c'était compliqué.
Et voilà, c'était compliqué. Et le lobbyiste a fait pencher la balance avec, on l'imagine, pas mal de tractations dans la coulisse avant, mais aussi après. Voilà donc pour la fabrique de la loi. Et pour être au mieux avec certains élus, il y a des techniques qui ont fait leur preuve, hein, Isabelle.
Et la plus classique, c'est le petit cadeau, limité à 150 euros selon la charte de déontologie de l'Assemblée nationale. Sauf qu'en mars dernier, on a vu des centaines de bouteilles livrées à l'Assemblée. Alors sur le papier, la règle était respectée puisque chaque bouteille valait 60 euros, mais il y en avait plusieurs centaines.
Alors, autre méthode, les invitations à des événements culturels très prestigieux.
Oui, alors là, on a recueilli énormément de témoignages là-dessus, dont celui de l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine.
Je me souviens très bien d'avoir reçu des invitations pour assister à des concerts absolument splendides, magnifiques, dans des lieux d'exception comme Royaumont, mais avec des affiches musicales absolument extraordinaires. Il se trouve que j'adore la musique. Et donc, quand je vois arriver l'invitation, je me dis « formidable ». Enfin, justement, je dis « mais qui m'invite ?» Et je vois que c'est un très grand cigarettier. Et j'ai renoncé au concert. Ils le font parce qu'ils se disent qu'il y a une stratégie d'influence, que si vous avez été invité à un concert exceptionnel et précédé ou suivi d'un cocktail extraordinaire, vous prêterez ensuite une oreille attentive à leur discours.
La stratégie du cocktail, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres techniques pour se rapprocher des élus.
Oui, on peut proposer à un parlementaire d'être la tête d'affiche d'un colloque pour mettre en valeur son travail, et c'est tout bénéfice pour le cabinet de lobbying qui organise. Cette formule, elle a été inventée il y a plus de 20 ans par Hervé Maurey et sa société de lobbying. Il est aujourd'hui sénateur centriste et donc de l'autre côté de la barrière.
Vous avez soit l'entreprise qui va au-devant du parlementaire, soit le parlementaire qui, ayant entendu parler de l'entreprise et ayant vu telle manifestation ou tel collègue, peut appeler l'entreprise en disant bah, « écoutez, j'aimerais bien que vous me montiez un colloque » parce que ça valorise un parlementaire d'organiser un colloque, d'avoir une salle avec 200-300 personnes, d'avoir à la tribune les gens qui comptent sur le sujet, d'avoir, si on fait bien son boulot, des retombées presse. C'était ça, d'ailleurs, un peu notre idée de base, de dire aux parlementaires « écoutez, on va vous organiser un colloque, ça va valoriser votre travail, ça vous coûtera rien parce qu'on trouve les financements. » C'est une idée qui a prospéré parce que c'était intéressant pour les parlementaires.
Un colloque, ça valorise un parlementaire, dit ce sénateur ancien lobbyiste, une idée qui a donc prospéré. Et puis il y a aussi une autre idée qui a fait son chemin, Isabelle. Ce sont les déjeuners ou les petits déjeuners avec les parlementaires. Et au cours de votre enquête, vous avez découvert que certains de ces repas étaient d'un genre un peu particulier.
Oui, avec des prises de parole extrêmement minutées. Le député La République En Marche, Mathieu Orphelin, a expérimenté cette formule bien malgré lui.
On a tous les jours des cabinets de lobby qui appellent nos équipes pour, au nom de certains clients, proposer des rendez-vous entre leurs clients industriels et le député. On a aussi tout un tas d'autres formats proposés par les cabinets de lobbying, des petits déjeuners communs, qui sont en fait aussi des lieux où les entreprises payent pour pouvoir exposer leur point de vue. Ça m'est même arrivé une fois, moi, alors j'ai tout de suite mis les hauts là, d'avoir un déjeuner avec 4 entreprises sur une thématique qui m'intéresse, économie circulaire, et de me rendre compte, dès le début du déjeuner, que les 4 entreprises avaient chacune payé pour pouvoir exposer devant moi, pendant 15 minutes, leurs arguments et leurs problématiques. Évidemment, j'ai dit en sortant que ce serait la dernière fois.
Alors du côté des agences de lobbying, on précise que ces déjeuners sont très encadrés, avec une publication du thème et des invités, et avec parfois un compte-rendu distribué ensuite aux participants.
Alors être au plus près du pouvoir, on l'a bien compris, c'est ça l'enjeu. Mais ce que vous avez constaté aussi, Isabelle Souquet, c'est que ce lien entre lobbyistes et responsables politiques, il est de plus en plus ténu.
Oui, et c'est ce que nous a confié l'un de ces lobbyistes qui tient à rester anonyme. Nous avons fait lire son témoignage.
Beaucoup d'employés de grosses agences de communication ont déjà travaillé ou travailleront demain dans des cabinets ministériels. Cela entretient l'entre-soi, car le travail de ces agences repose beaucoup sur leur carnet d'adresses. Ils ne sont pas très bons, hein, techniquement, mais ils connaissent les bonnes personnes dans les ministères. Par exemple, lorsqu'ils veulent supprimer des emplois, certains de mes clients préfèrent se tourner vers ces grosses agences parce qu'elles ont des contacts privilégiés avec l'Élysée ou avec Matignon. À ce moment-là, leur plan de restructuration passe mieux, il fait moins de vagues.
Oui, donc ce qu'on comprend, c'est que les portes tournantes entre le privé et le public, elles tournent aussi avec les agences de communication et de lobbying. Et pour le vérifier, vous avez regardé à la loupe le parcours des collaborateurs ministériels.
Oui, avec Marjolaine Corr, nous avons passé au crible le CV des 298 collaborateurs de tous les cabinets ministériels. Résultat, 43 ont travaillé à un moment ou à un autre de leur carrière dans le lobbying. Et la palme revient au ministère du Travail, où sur les 9 employés du cabinet, 4 ont travaillé dans le lobbying et 2 dans les relations sociales pour le MEDEF.
Et puis il y a le Premier ministre qui lui aussi est concerné.
Oui, Édouard Philippe était directeur des affaires publiques, c'est le nom moderne des lobbyistes, pour le groupe nucléaire Areva entre 2007 et 2010.
Voilà donc pour cette photographie politique. Et ce lobbying alors, est-ce qu'il est vraiment encadré par la loi ?
Sur le papier, oui, avec la création l'été dernier d'un registre dans lequel tous les lobbyistes qui contactent les élus et leurs leurs collaborateurs doivent se déclarer. À l'heure actuelle, plus de 1500 groupes d'intérêts sont recensés dans ce registre. Sauf que les déclarations sont faites tous les 6 mois et pas en temps réel, et qu'on ne sait jamais précisément qui contacte qui. Le député Mathieu Orphelin est l'un des rares députés à rendre public, lui, son agenda.
Chaque mois, je publie la liste de tous mes rendez-vous avec les lobbies et les thèmes abordés au cours de cette rencontre. Ces rendez-vous avec les représentants d'intérêts, publics et privés, ils sont importants. C'est mieux que de faire la loi tout seul dans son bureau. Il faut qu'on puisse confronter les points de vue. Maintenant, il faut que tout ça se passe dans la plus grande transparence. C'est important de savoir, quand je m'exprime sur la loi agriculture et alimentation, par exemple, quels sont les lobbies que j'ai rencontrés. Et c'est ce qu'on appelle mesurer l'empreinte législative d'un lobby.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment les lobbies rivalisent parfois d'imagination pour tenter de nouer des contacts avec les élus. On a vu comment, en France, la frontière entre lobbyistes et cabinets ministériels est facilement franchissable. Voyons maintenant, Isabelle Souquet, comment ce lobbying s'effectue à une autre échelle, au niveau européen.
Alors à Bruxelles, c'est très différent. Le lobbying fait partie du décor. On parle de 25 à 30 000 lobbyistes permanents, des lobbyistes qui ont su se rendre indispensables pour fournir argumentaire et expertise, comme l'explique Martin Pigeon, le porte-parole de Corporate Europe Observatory, une association qui suit de près le lobbying européen.
Les lobbyistes n'ont que le pouvoir qu'on leur donne, c'est-à-dire que les lobbyistes n'auraient aucun pouvoir s'ils n'étaient pas nécessaires. Et à Bruxelles, c'est très important, au sens où les institutions européennes sont des institutions qui sont très puissantes et extrêmement pauvres, paradoxalement. Par exemple, vous prenez la Commission a 33 000 employés. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas énorme. C'est les 2/3 à peu près du nombre total d'employés de la mairie de Paris. Sauf que là, vous parlez d'une administration publique qui a le monopole de la préparation des lois et de leur exécution pour un continent de 500 millions de personnes. Dans le système bruxellois, les lobbyistes sont une sorte de bureaucratie auxiliaire.
Une sorte de bureaucratie auxiliaire, dit le responsable de cette ONG. Et concrètement alors, comment ils agissent, ces lobbyistes?
En étant au plus proche du fonctionnement des institutions européennes, parce que, contrairement à la France, ici, le relationnel ne suffit pas, assure Claire Boussagol, la directrice générale de APCO Worldwide, une très influente société de lobbying à Bruxelles.
C'est pas une histoire de carnet d'adresses. Parce qu'en France, il y a une notion de, voilà, c'est plutôt sur la base de qui tu connais que sur la base de ce que tu connais. Et en fait, ce qui est important, c'est la connaissance du dossier, la connaissance du processus législatif pour pouvoir, le cas échéant, influencer le cours des choses.
Il faut connaître le fond des dossiers et le circuit de décision pour pouvoir l'influencer, dit cette lobbyiste. Et comment elle s'y prend alors pour faire passer également ses argumentaires?
Eh bien, en plus du travail classique de lobbyiste, elle n'hésite pas à organiser des déplacements avec des députés européens. Par exemple, dans le dossier de la pêche, elle les a carrément fait monter à bord.
On a emmené quelques parlementaires, notamment sur un bateau à 6h du matin, à Boulogne-sur-Mer, avec 3 bateaux, avec des députés, leurs assistants et certains administrateurs de groupes politiques au Parlement européen. On a illustré notre propos par l'exemple. Et il y a notamment une députée verte allemande qui était complètement opposée à ce que l'on disait et qui, en voyant concrètement comment ça se passait sur un bateau, avec la taille du bateau, que certaines propositions n'étaient pas réalistes.
Et il y a un autre dossier sensible qui est suivi de très près par les lobbyistes européens, c'est le glyphosate. On y revient à nouveau.
Oui, en novembre dernier, l'autorisation du glyphosate a été renouvelée pour 5 ans par la Commission européenne. Mais pour les lobbyistes, la bataille est loin d'être terminée. Et dans cette bataille, vous allez très vite comprendre les intérêts que représente Daniel Guéguin.
Qu'est-ce que vous avez contre le glyphosate? Non mais, et pourquoi ce serait interdit? En vertu de quoi? Mais moi, je suis pour le glyphosate, je n'hésite pas à le dire. Vous savez, je déteste les clichés. Et dans le dossier glyphosate, on est absolument dans l'idéologie.
Vous l'avez bien compris, Daniel Guéguin, qui est à la tête de la société Pact European Affairs, a pour client la Confédération européenne des producteurs de maïs et l'industrie chimique européenne. Alors on rappelle tout de même que selon l'Organisation mondiale de la santé, le glyphosate est considéré comme un cancérogène probable et ces derniers jours à l'Assemblée nationale en France, un amendement proposant d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans, eh bien cet amendement a été rejeté par les députés.
Merci Isabelle Souquet pour cette enquête réalisée avec Marjolaine Corr, enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous, dans un instant, vous allez découvrir les vestiaires du Kremlin. Deep Right Now, un grand bol d'air frais avec ce titre du groupe australien Parcels. On n'a pas fini de l'entendre cet été.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colomba.
Alors nous recevons à présent Jean-Christophe Collin, vous êtes grand reporter à l'Équipe et vous venez de publier une enquête intitulée « Le livre noir du sport russe » aux éditions Stock, une plongée passionnante dans les coulisses du sport et de la raison d'État. La Russie, l'ex-URSS, c'est un pays que vous connaissez bien depuis longtemps et ce que vous montrez, c'est que pour le Kremlin, eh bien, le sport a toujours été un instrument très politique.
Oui, c'est un levier de pouvoir et de propagande depuis toujours en URSS d'abord. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y a une continuité entre les méthodes utilisées par le pouvoir soviétique, par le Kremlin, et par le pouvoir russe aujourd'hui de Vladimir Poutine, qui s'inscrit dans cette continuité du sport comme levier de pouvoir et de propagande.
Alors, ce qu'on comprend dans votre enquête, c'est que il y a les sports traditionnellement soutenus par le pouvoir soviétique ou russe, comme la gymnastique ou le patinage artistique, et puis il y a les disciplines qui ont longtemps été mal vues, c'est le cas du tennis par exemple.
Du tennis, du rugby, c'était des sports considérés comme petits bourgeois. Donc Staline et Khrouchtchev les avaient interdits. Les gens n'avaient aucune image du rugby, ils ne pouvaient pas le pratiquer. Et donc ce que je raconte dans le livre, c'est que par exemple, ils allaient voir des films. Il y a notamment un film avec Jean Lefebvre où il y a 30 secondes de rugby, les gens allaient le voir une quinzaine de fois pour se former au rugby. C'est pareil pour le tennis, il était interdit, mais il y avait des cours secrets.
Oui, un cours de tennis classé secret défense.
Classé secret défense.
Dans l'enceinte du comité central du Parti communiste.
Exactement, parce qu'on n'avait officiellement pas le droit de jouer au tennis, mais en fait, il y avait beaucoup d'amateurs de tennis. Et puis, Eltsine, on le sait, sera un grand amateur de tennis et lui, il va faire beaucoup pour le développement du tennis en Russie.
Et ce qui se joue à travers le sport, c'est une guerre idéologique en fait au niveau mondial, ce que les Américains appellent le soft power.
Exactement, les Soviétiques ont compris ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une tournée d'un club de foot en Grande-Bretagne qui est resté célèbre. Et en fait, au retour de cette tournée triomphale du club du Dynamo en Grande-Bretagne, les dirigeants du Kremlin se sont aperçus que le sport avait un effet psychologique très important sur les foules. Et dans cet enjeu face à l'Occident de guerre idéologique, ils ont compris tout de suite que le sport était un levier très important. Ils vont en user pendant toute la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui.
Et dans cette bataille, parce qu'il s'agit bien d'une bataille, les services secrets soviétiques et russes sont à la manœuvre. Vous racontez comment le KGB et son successeur, le FSB, suit de très près, mais vraiment de très près, les sportifs. Hein.
Alors effectivement, il y a une section au sein du KGB, une section sport. On suit les sportifs comme les dissidents à l'époque. Et donc, cette section est chargée du suivi des sportifs, alors notamment quand ils vont à l'étranger. Il y a toujours des membres du KGB dans la délégation. Et puis, il y a les bons sportifs et les mauvais sportifs. Alors, il y a ceux qui rentrent dans la ligne du régime et puis il y a ceux qui sont un peu plus turbulents. Et ceux-là, on peut les écarter. Notamment, on le voit dans les championnats du monde d'échecs. Le Kremlin choisit son champion du monde, Anatoly Karpov à l'époque. Mais c'est vrai dans d'autres disciplines, notamment en patinage artistique, par exemple, qui est une discipline emblématique de l'Union soviétique. Il y avait effectivement les bons sportifs qui étaient soutenus par le régime et puis les autres qui pouvaient être écartés.
Et vous citez également le cas du footballeur qui n'est pas très connu du grand public, c'est le moins qu'on puisse dire, Edouard Streslov, qui a été brisé par le Kremlin alors qu'il aurait pu devenir l'égal d'un Pelé ou d'un Maradona.
C'est une histoire inconnue, effectivement, en Occident, mais c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football pour ceux qui l'ont vu jouer. Il était assez incontrôlable et puis il a fait une offense notamment à une membre du Politburo en refusant la main de sa fille et dès lors son destin a été complètement contrarié, c'est un destin complètement brisé alors qu'on dit que c'était légal d'un Pelé à l'époque. Quoi.
Et il a refusé aussi d'être transféré dans des clubs proches du ministère de l'Intérieur et de la défense russe. Hein.
Il jouait au Torpedo, il a refusé d'aller au CSKA qui est le club de l'Armée Rouge, ou du Dynamo qui est le club du KGB et ça a brisé sa carrière à tel point qu'on l'a envoyé au Goulag pendant 4 années et malgré tout, à son retour du Goulag, il redevient le meilleur joueur soviétique.
Vous décrivez également, Jean-Christophe Collin, comment la mafia russe gangrène peu à peu le milieu du sport, hein, avec des batailles sanglantes dans les années 90. Vous parlez de 400 décès de sportifs de haut niveau.
Lorsque l'Union soviétique a disparu et qu'il y a eu cette guerre, hein, cette guerre économique pour l'attribution des biens de l'ex-Union soviétique, les usines, les entreprises, les administrations, la criminalité organisée, pour prendre ces entreprises, a utilisé les sportifs et notamment les sports de combat. Et c'était une guerre civile hein, dans ces années 90, il y avait énormément de morts et il y a beaucoup de sportifs qui sont morts au combat, j'allais dire.
Ce qu'on découvre aussi dans votre livre, c'est l'influence considérable des services secrets russes au sein même du Comité international olympique. Vous dites que le CIO est un nid d'espions pour les services russes.
Le sport est un enjeu majeur pour le Kremlin et donc les services secrets, le KGB, s'occupent de près des sportifs. Ils les contactent et ils les recrutent au début de leur carrière. Et on remarque que beaucoup d'entre eux ont connu des carrières fulgurantes et j'ai eu la chance de rentrer en contact avec un colonel du KGB qui était dans la fameuse section sport du KGB. Et lui, effectivement, m'a assuré qu'un certain nombre de membres du comité olympique avaient été recrutés par le KGB.
Alors, vous écrivez que pour le Kremlin, le sport est le moyen ultime de prouver qu'on exerce la domination sur un territoire. Et vous citez un exemple assez édifiant, celui du président Ramzan Kadyrov qui fait régner la terreur en Tchétchénie et qui invite des stars du football brésilien pour redorer son image.
Kadyrov, il a organisé des matchs de foot et il a fait venir les anciens champions du monde de l'équipe du Brésil contre espèces sonnantes et trébuchantes. Un match de football à Grozny, auquel j'ai assisté. Absolument effrayant parce que Kadyrov jouait lui-même contre l'équipe brésilienne.
Et on le laisse marquer des buts.
Et on le laisse marquer des buts parce que les joueurs brésiliens étaient un peu effrayés à l'idée de jouer contre un dictateur finalement.
C'est-à-dire qu'au début, le gardien de but brésilien arrête les buts et à la mi-temps, on lui dit « Mais arrête, tu es fou, tu veux qu'on se fasse tous massacrer. »
On va jamais repartir, quoi. Si on joue au football, ça veut dire que le pays est sous contrôle et qu'il n'y a pas de problème.
Et c'est ce qui s'est passé également avec les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014.
Exactement de la même manière. C'est pas anodin que ça ait été fait à Sotchi, c'est-à-dire
dans le Caucase.
Et c'était pour montrer que ce territoire est sous contrôle.
Vous revenez aussi longuement sur les affaires de dopage, un dopage institutionnalisé.
Depuis toujours, depuis l'après-guerre, quand les Soviétiques rentrent dans le grand jeu du sport pour essayer d'exercer une domination sur le sport mondial, bien sûr, le dopage en fait partie.
Et tout ça, c'est sur fond de bras de fer avec les Américains. C'est un peu comme s'il y avait une course au dopage entre les deux pays, finalement.
Exactement. De la même manière qu'il y avait une course à l'armement et une course aux étoiles pour être les premiers dans l'espace, eh bien, dans le sport, ça marchait exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il fallait dominer l'autre. Tous les moyens étaient bons, y compris le dopage.
Et les Américains faisaient pareil.
Les Américains faisaient exactement la même chose.
Alors, vous révélez dans votre livre qu'au jeu de Sotchi, aux Jeux Olympiques de Sotchi, eh bien, c'est la même technique pour masquer le dopage qui a été utilisé 30 ans plus tôt aux Jeux de Moscou.
Effectivement, j'ai découvert ça. Donc on sait qu'il y a eu un scandale énorme de dopage aux Jeux Olympiques de Sotchi. Le KGB est intervenu pendant la durée des Jeux Olympiques pour rendre propres des urines d'athlètes dopés de la délégation russe. Et on les subtilisait la nuit pour les remplacer par des urines propres. Et ça a déjà été organisé de la même manière lors des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Tout était organisé pour que le triomphe soit total. Alors, sous la pression internationale, ils vont être obligés de changer. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. Il faut que le Kremlin, et notamment Vladimir Poutine, reconnaisse officiellement que la Russie a truqué les Jeux de Sotchi, notamment. C'est difficile parce qu'il y a un de ses amis proches, Vitali Moutko, qui l'a nommé vice-premier ministre, qui était ministre des Sports, et donc qui a été accusé à ce titre d'avoir couvert ce scandale de dopage.
Il ne peut pas le lâcher.
Pour Vladimir Poutine, c'est très compliqué, d'autant qu'il y a un certain nombre d'accusations qui montrent que Vladimir Poutine était au courant de ce dopage d'État. S'il reconnaît qu'officiellement la Russie a truqué les Jeux, c'est se désavouer lui-même.
Merci Jean-Christophe Collin. Je rappelle le titre de votre livre vraiment captivant, Le livre noir du sport russe aux éditions Stock. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert. Merci à Selim Guéribi et à Julien Dumont à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou, CEO de Mon Amour, en direct du festival We Love Green au Bois de Vincennes à Paris. La cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.